Aujourd'hui, la masterclass de Michel Serre avec Xavier Martinet.
Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous si nombreux pour cette masterclass de France Culture avec le philosophe Michel Serre, que nous saluons.
Bonjour.
On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Michel Serre, beaucoup de personnes vous connaissent, au moins de nom. Vous avez publié des dizaines d'ouvrages, 74, j'en ai compté depuis une quarantaine d'années. Vous avez enseigné l'histoire des sciences en France et à Stanford, aux États-Unis. Et vous êtes aussi, il faut le souligner, apprécié des médias. Vous les appréciez aussi d'ailleurs, puisque vous y tenez parfois des tribunes et une chronique permanente sur France Info. J'ajoute que vous êtes né à Agen, non pas au bord de la mer, mais d'un canal. C'est donc un rapport particulier, sans doute, à la mer, biographique et philosophique. On pourra en reparler pour une masterclass, donc peut-être un peu spéciale aujourd'hui, puisque traditionnellement destinée à l'enseignement technique, artistique ou juridique. Là, nous sommes avec un philosophe, c'est, on pourrait dire, un inventeur de concepts, on pourrait dire aussi un ingénieur, mais Michel Serre, vous préférez parler de vous comme d'un éboueur de la philosophie. On verra ce que ça signifie. Quelqu'un à qui vous pouvez faire penser, je me dis ça hier, c'est Gilliatt, le héros des travailleurs de la mer, qui doit récupérer une machine perdue sur un récif, mais il y a d'autres personnages aussi auxquels on pourrait vous apparenter. En tout cas, vous êtes un philosophe particulier, au moins pour deux raisons. Vous n'êtes pas d'abord un philosophe qu'on pourrait dire de la noirceur. Là, c'est Thomas Coville, le navigateur, qui le disait dans cet entretien que vous lui donniez avec l'équipe le 13 mai, mais plutôt un philosophe de l'optimisme et pourtant un penseur volontiers des marges et des petites gens, aussi bien que des grands mouvements d'avenir. Un optimisme résolu, donc, qu'on pourrait comparer à celui de Tintin ou des romans de Gaston Rebuffat, qu'on aurait pu trouver un peu facile ou daté, mais que vous n'avez cessé de réactualiser à travers vos ouvrages. Et puis, je termine en disant que vous êtes un philosophe aussi non académique, qui écrit des livres, une œuvre plutôt immense, et pourtant qui ne fait pas système, comme on dit, caractérisé par des personnages, hein, Hermès ou le tiers instruit, qui se rapproche plus du personnage de roman que des concepts purs, un style aussi fait de rapprochement, de télescopage et glissement thématique, et pourtant une pensée de la communication, issue même de la communication, vous l'avez assez dit. Alors, pour terminer cette introduction, je dirais que Gilles Deleuze disait, lui, qu'un des remerciements qui lui avait fait le plus plaisir, puisque nous sommes à la mer, est une lettre écrite par un club de surf, une manière de dire qu'il avait vu juste en un sens, en tout cas que avait vu juste. Pour vous, Michel Serre, vous disiez à propos de Thomas Coville, justement, le navigateur, quand un marin parle de moi, je chiale comme un enfant. Vous l'aviez rencontré en début d'année parce qu'il venait de réussir le tour du monde à la voile en multicoque avec 8 jours d'avance. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous quand un marin parle de vous?
C'est-à-dire l'aventure avec Thomas Coville a été très surprenante pour moi. J'étais en train de faire une émission ordinaire sur France Info et tout d'un coup on a dit on va vous faire une surprise et Thomas Coville s'est mis sur le réseau. Il venait d'arriver de faire son tour du monde et il a dit à un moment je l'ai fait grâce à vous. Et je me suis mis à pleurer, voilà. C'était le plus beau jour de ma vie, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'il avait amené quelques-uns de mes livres, quelques-uns de mes chroniques, vous voyez. Et bon, il a dit ça, et il est impossible d'être pas profondément ému lorsqu'on entend des choses pareilles, vous voyez.
Voilà. Et parce que c'était et un depuis, marin
oui, parce que, voyons, vous avez dit que j'étais de l'eau, et vous avez fait une toute petite erreur. Vous avez dit que j'étais d'Agen à côté du canal. Et non, Agen est sur la Garonne. C'est pas ? Et mon père avait un métier de marinier. Il était dragueur. Ça ne se dit plus maintenant de cette façon, vous savez pourquoi. Dragueur, ça voulait dire à l'époque, on a un bateau qui s'appelle une drague, avec laquelle on drague les sables et les cailloux du fleuve. Voyez. Et par conséquent, j'ai passé ma jeunesse sur l'eau. Et par la suite, comme on essaie de faire mieux que papa, je suis passé des eaux douces à l'eau de mer, tout simplement.
Quand vous dites des eaux douces aussi, c'est pour ça que j'évoquais ce rapport particulier à l'eau. Peut-être que ce n'est pas forcément des eaux douces que vous avez vécues dans votre enfance, c'était un fleuve.
Je suis content de dire ça à Saint-Malo, parce que je crois que les gens de mer, qui sont des gens de l'eau salée, ont tout le mépris imaginable pour les marins d'eau douce, les marins d'eau douce. Bon, mais je voudrais rectifier ce jugement de façon très précise. Imaginez que vous soyez sur un bateau en train de remonter ou de descendre un fleuve. Pas un canal, un fleuve. La Seine, par exemple, où il y a beaucoup de péniches, etc. Est-ce que vous savez le travail que ça demande ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit du fleuve qui ne soit pas original par rapport au courant, par rapport au contre-courant, par rapport aux bancs de sable, par rapport aux rives, par rapport aux virages, etc. Donc un marin d'eau douce fait tout le temps attention à la barre. Il n'a pas un moment de libre. Ben, imaginez quelqu'un à la barre sur la mer Jolie, par 3000 mètres de fond et la bonasse, tout va bien. Par conséquent, il n'est pas sûr que le plus facile soit d'être un marin d'eau douce.
Donc le fleuve, pour vous, c'est le chaos ?
Non, le fleuve, c'est la complexité. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les éléments sont disparates. Il n'y a pas d'éléments homogènes. Et par conséquent, lorsque Guillaume Apollinaire se liait sous le fond Mirabeau, coule la Seine, tu parles. Hein, il n'a jamais navigué, bien entendu. C'est-à-dire, du haut de du pont, on peut voir que la Seine coule et tout va bien. Mais non, la Seine est pleine, comme la Garonne, encore plus la Garonne, de contre-courants, d'emmerdements, de bancs de sable où on peut s'échouer, etc. Et par conséquent, la Seine ne coule pas comme ça de façon linéaire. Quelquefois, elle remonte. Vous êtes obligé de lutter contre un contre-courant, vous voyez. Si vous voulez, voilà, je défends les marins de la corporation des marins d'eau douce. Voilà.
Je disais
Saint-Malo, ça vaut le coup, quand même.
Et je disais chaos aussi, ou en tout cas tempête, vous disiez complexité de ce fleuve, parce que vous l'aviez vécu en crue, justement, la Garonne.
Oui. C'est vrai qu'une crue de fleuve ne ressemble pas aux marées. Au marais, encore un autre problème. C'est-à-dire que nous savons, avec la carte des marais, la chronologie des marais, qu'à telle heure, à Saint-Malo, la mer sera à tel endroit, etc. C'est prévisible, prévisible. Alors que les crues ne sont pas prévisibles, je parlerai tout à l'heure.
Alors, on va revenir au...
j'ai une histoire à vous raconter. vous savez que je fais partie de cette association de malfaiteurs qu'on appelle l'Académie française, oh. Oui. Et nous sommes voisins de l'Académie des sciences. Et comme je suis historien des sciences de métier, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de l'Académie des sciences. Et figurez-vous que j'ai découvert début du XVIIe siècle, un mot des académiciens de Paris disant « Les marins bretons sont si sots et si ignorants qu'ils croient que les marées sont déterminées par le soleil et la lune. » C'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas ?
Bravo les académiciens.
Donc, je reviens sur mon propos, les marées sont prévisibles. Depuis quelque temps, on a vraiment tandis que les crues ne sont pas prévisibles. C'est-à-dire qu'il est possible que dans la nuit, tel fleuve passe de l'étiage 4 mètres à l'étage de 11 mètres en 3 heures, vous voyez. Et que les bateaux sur lesquels vous êtes, il faut les réamarrer ailleurs. Parce que votre bateau avec la crue peut aller dans un champ ou dans un autre, vous voyez. Et il risque, à la décrue, de se trouver au milieu d'un champ de maïs, vous voyez. Bon. Et donc, crues et décrues ne sont pas prévisibles, vous voyez.
Et c'est pour ça, Michel Serres, que je tenais à évoquer ce rapport à l'eau, au fleuve et à la tempête, oui. Parce qu'il y a une autre série d'événements aussi que vous avez vécu dans votre enfance et plus tard également, c'est la guerre, ou plutôt les guerres, justement, avec lesquelles vous avez eu un rapport étendu. Votre père avait fait la Première Guerre mondiale, vous-même, vous avez été marin pendant un certain nombre de conflits, la guerre d'Algérie, le canal de Suez, et bien sûr, il y a cet événement d'Hiroshima, qui, lui, était-il prévisible ou pas, en tout cas, a marqué non seulement vous, mais toute une génération, on pourrait dire.
Oui, ça serait peut-être un peu impudique de parler de moi, mais effectivement, les gens de ma génération ont connu d'abord un parent éventuellement qui est mort ou qui était blessé à la guerre de 14, ce qui était le cas de mon père, et puis, comme je suis né, un âge un peu néolithique, en 1930, en 36, comme j'étais dans le sud-ouest, j'ai connu les réfugiés de la guerre d'Espagne qui racontaient des horreurs, qu'ils soient d'ailleurs des blancs ou des rouges. En 39, on a connu le tsunami des réfugiés venant du nord, etc. Puis ça a été la guerre mondiale de nouveau. Et ensuite, évidemment, les guerres coloniales, la guerre d'Algérie. Et j'ai moi-même, sur un bateau de marine nationale, réouvert le canal de Suez après la campagne de Suez. Bon. Donc, si vous voulez, entre ma naissance et l'âge de 28-30 ans, ça a été la guerre, la guerre, la guerre, tout le temps la guerre, vous voyez. Et donc, quand on a été formé dans son enfance et son adolescence par ces événements-là, eh bien, on est plein de guerre, si vous voulez. J'ai une chair de guerre, un corps de guerre, si vous voulez. Et donc, j'ai une âme de paix. Et donc, j'ai une âme de paix.
Et
alors là, parlons-en. Parlons-en, parce qu'il se trouve que, il y a quelques mois, j'ai publié un livre qui s'appelle « Darwin, Bonaparte et le Samaritain, philosophie de l'histoire ». Et là, je dis quelque chose de exactement ce que vous dites, et que vous dites avec beaucoup de gentillesse, c'est-à-dire qu'au moment d'Hiroshima, la génération, disons, des savants et des philosophes ont été marqués à jamais par cet événement. Pour une raison très simple, c'est que, avant cet événement-là, toute la philosophie de l'histoire et même la politique étaient guidées de façon très précise par l'idée de progrès. L'idée de progrès dominait l'Europe depuis la philosophie des Lumières, disons, 18e siècle. Et par conséquent, le progrès, qu'est-ce que c'était ? Le progrès, c'était l'avancée des sciences. Donc les sciences nous permettaient le confort, la guérison, c'est-à-dire un monde de meilleur en meilleur. Voyez ? Et puis tout d'un coup, un drame terrible, cette science que nous croyions autrefois toute bonne et seule bonne, c'est-à-dire qui dirigeait le progrès, avait fait ça. Et alors, je vous fais remarquer qu'à la génération qui me précède, où tous les gens sont déjà morts, bien entendu, savez-vous que beaucoup de physiciens ont quitté la physique à cause de ce problème de conscience ? Et que les grands progrès de la biochimie sur le vivant ont été dus à des physiciens, par exemple Schrödinger qui a écrit « What's Life ?», qui est un livre de génie fait par un physicien annonçant ce que sera l'ADN, vous voyez. Il a eu l'idée que c'était un cristal périodique, vous voyez. C'est-à-dire une sorte de mutation entre la physique et la biologie, avec l'idée que, me dirait, répétait sans arrêt Jacques Monod, j'ai fait de la biologie parce que c'était une science de la paix, voilà.
Et de ce point de vue-là, comment se fait-il que vous, justement, à cette époque de la guerre, sortant de la guerre, ayant été à l'école navale également, vous vous retrouviez à vouloir écrire des livres de philosophie ? Vous avez hésité à ce moment-là, vous êtes donc allé à l'école navale assez rapidement en 1949, vous avez démissionné, je crois, très rapidement aussi, vous allez nous expliquer pourquoi, vous êtes ensuite allé faire une licence de mathématiques également, et puis il y a eu cet épisode de Louis le Grand, on a l'impression d'une période d'hésitation ou de bifurcation un petit peu.
Mais non, de bifurcation certainement, mais c'est simplement que ce n'était pas ma faute, ce n'était pas moi, c'était ma génération, vous voyez. Pourquoi ? Parce que précisément, à cette époque-là, alors que j'ai décrite, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la philosophie du progrès, la philosophie des Lumières venait d'en prendre un sérieux coup. Et alors à ce moment-là, évidemment, quand j'ai fait l'école navale pour faire mieux que papa, la mère plutôt que les marins d'eau douce, n'est-ce pas ? Bon, je me suis aperçu que j'allais en effet manœuvrer des torpilles, etc. Bon. Et donc j'ai démissionné à cause de ça. Et puis j'ai fait plutôt de la philo pour essayer de réfléchir sur les problèmes de la violence. Et le problème de la violence, philosophiquement parlant, a été pratiquement au cœur de ce que j'ai produit depuis 70 livres, comme vous dites, parce que c'est le problème majeur de... Et du coup, mon livre sur la philosophie de l'histoire, que j'ai cité tout à l'heure, marque quelque chose que je voudrais souligner devant vous. Voici. Avez-vous conscience que depuis la fin de la guerre, nous sommes en paix ? Nous sommes en paix. Depuis 70 ans, nous sommes en paix. Un historien de la fin du 19e siècle, qui s'appelait Bloch, c'était pas Ernest Bloch, non, c'était un homonyme, a fait une étude réellement bien détaillée sur 3000 ans d'histoire précédente, entre, disons, 1000 ans avant Jésus-Christ, avec le début où nous avions des témoignages, jusqu'à son époque à lui. Et il a découvert que sur 3000 ans, il y avait 6 à 7% d'années de paix. 6 à 7% d'années de paix. Par conséquent, avoir 70 ans de paix, ou bénéficier 70 ans de paix, est un événement unique dans l'histoire, original dans l'histoire, et qui n'a jamais été produit. En avez-vous conscience ? En avez-vous conscience ? C'est-à-dire que je vois mon public, vous êtes tous évidemment plus jeunes que moi, évidemment. Et donc, parmi vous, beaucoup n'ont pas connu la guerre, bien entendu. Et même, ça donne des résultats tout à fait extraordinaires. Les pays d'Occident, et peut-être les autres que je ne connais pas, sont dirigés par des gens qui n'ont jamais connu la guerre. Monsieur Hollande n'a jamais connu la guerre, Monsieur Sarkozy non plus, et ainsi de suite, vous voyez. Et par conséquent, je vous demande de témoigner ou de dire dans l'histoire un seul chef d'État qui n'ait jamais connu la guerre. Ça n'est jamais arrivé, vous voyez, puisqu'il y a un aphorisme de philosophie de la politique qui dit « la guerre fait l'État et l'État fait la guerre ». C'était une sorte de feedback permanent, vous voyez. Donc, il est vrai que nous vivons en temps de paix. Alors vous allez me dire « oui, mais c'est la France et ailleurs, c'est la violence extrême ». Attention. Lorsque vous rentrerez chez vous, s'il vous plaît, vous allez prendre votre ordinateur et vous allez taper, vous me le promettez, parce que je ne suis venu à Saint-Malo que pour ça. Vous allez prendre votre ordinateur et vous allez taper « cause de mortalité dans le monde ».« Cause de mortalité dans le monde ». Et un tableau va vous apparaître avec tous les chiffres donnés par les institutions mondiales, comme l'UNESCO, comme l'OMS, etc. Et là, vous avez les chiffres avec un tableau décroissant, vous voyez, les maladies tropicales, le tabac, etc., les accidents de la route, etc. Quel est le dernier ? Le dernier que le tableau considère presque comme négligeable. Le dernier, c'est guerre, violence, terrorisme. Moins de 1%. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire, mon diagnostic sur la paix n'est pas seulement applicable à notre pays, mais au monde. Et on vous dit toujours le contraire. C'est-à-dire, vous ne voyez dans les médias que guerre, violence, terrorisme. Mais du point de vue global, du point de vue... Alors, évidemment, je n'ai pas un cœur de pierre. Je m'incline avec beaucoup de pitié et même de chagrin devant les victimes des attentats que nous avons subis sur notre territoire ou ailleurs en Europe. Bien entendu, je ne suis pas complètement fou. Mais du point de vue numérique, c'est négligeable. Il ne faut pas oublier quand même qu'on vous annonce qu'il y a eu 30 morts en effet à Manchester, par exemple. Oui, mais moi, je me souviens de ma petite jeunesse, vous voyez, où le bombardement de Dresde a fait 180 000 morts en deux nuits.
C'était une autre ampleur.
C'est pas comparable.
Et c'était une autre époque. Et c'est Michel Serres, peut-être un peu là-dessus, je voudrais conclure, disons, cette première partie d'entretien sur votre jeunesse, si on peut dire, et ce qui a été formateur. En fait, c'est ça qui m'est apparu. À la fois, la guerre et la science vous sont apparus un peu par contresens ou sens complètement différent du sens commun qu'on peut en avoir. Pour vous, la guerre, vous nous l'avez dit, et Bloch l'a montré, c'est un peu la normalité, on pourrait dire, de l'histoire. Et la science, elle est apparue comme le chaos et pas du tout la marche vers le progrès. Ça a été deux événements très formateurs pour vous. Et surtout, ces deux événements qui vous ont fait voir un peu la vie à contresens, on pourrait dire, je ne sais pas comment le formuler.
Mais ce n'est pas contresens, c'est simplement objectif ou émotionnel. Vous voyez, les médias ont intérêt à soulever votre émotion pour que vous soyez des bons clients. Et par conséquent, ils ont lu Aristote. La télé a lu Aristote. Parce qu'Aristote a dit, si vous voulez attacher dans un spectacle des spectateurs qui viennent, vous devez appuyer sur le chagrin et la pitié. Donc ils ont tous lu Aristote, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, le pire sera toujours celui qui attirera les clients. Alors on vous donne le pire, vous voyez ? Mais c'est pas vrai. Enfin, c'est vrai factuellement. Factuellement, il est vrai qu'à Manchester, il est vrai qu'à Nice, il est vrai que... Bon, c'est vrai, factuellement c'est vrai, mais globalement parlant... Si vous prenez un petit peu de recul, eh bien c'est faux. Voyez. C'est-à-dire on vous trompe. On vous trompe sur l'effet global de la violence. C'est-à-dire nous sommes dans une période absolument unique dans l'histoire. Voilà. Et d'ailleurs, quand j'ai lu l'estimation de Bloch sur la paix et la guerre, l'équilibre, si vous voulez, j'ai regardé par exemple l'histoire des États-Unis et c'est le même chiffre. Depuis la fondation des États-Unis jusqu'à maintenant, ils ont eu 7% d'années de paix. Voilà. Et il n'a pas connu le 20e siècle, qui était le pire de tous les siècles du point de vue de la tuerie. Vous voyez ? Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans le livre que j'ai écrit sur la philosophie de l'histoire, où je définis l'âge que nous vivons comme un âge doux, vous voyez, un âge doux, ce qui a stupéfait les gens, je définis ce qui se précède et qui finit par Hiroshima, je le définis du point de vue des victimes. Du point de vue des victimes. C'est-à-dire, au lieu de dire Louis XIV a gagné la bataille de Lum, ni Napoléon a gagné la bataille de... Non, je ne dis pas ça. Je dis telle bataille, 150 000 morts. Telle bataille, en une après-midi, 40 000 morts. Savez-vous, par exemple, qu'Hannibal, à la bataille de Cannes, a battu tous les records de morts de l'Antiquité. C'est-à-dire plusieurs dizaines de milliers, vous voyez, entre les Carthaginois et les Romains. Par conséquent, je prends l'histoire à l'envers, c'est-à-dire du point de vue des victimes. Et par conséquent, je pense vraiment que l'idéologie de la victoire est probablement une des causes principales du problème du mal dans le monde. L'idéologie de la victoire, celui qui gagne, celui qui a le prix, celui qui est le premier, etc. Eh bien non, mettez-vous du point de vue de la victime, du point de vue du dernier. Voilà, c'est pour ça que je dis petite poussette. Oui, petite poussette.
On comprend mieux effectivement ce goût, je le disais au début, pour les marges, les personnages secondaires, les petites gens, on pourrait dire, ou les personnages insignifiants dans la grande histoire. Reste que, c'est vrai que vous parlez de Darwin, Bonaparte et le Samaritain, qui est un des derniers livres que vous avez écrit, un livre de, vous le dites, philosophie de l'histoire, voire philosophie politique. C'était un de vos projets, mais vous avez mis du temps à l'écrire, celui-là. Si on parle de votre œuvre maintenant globalement, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'elle est effectivement très nombreuse, très variée. Quand je dis variée, c'est assez intéressant. Il y a ce premier livre que vous avez écrit sur Leibniz, le système de Leibniz et ses modèles mathématiques qui a l'air d'une thèse, on pourrait dire classique, mais qui ne l'est pas du tout. De même ensuite que la naissance de la physique dans le texte de Lucrèce. On a des titres classiques, mais c'est des livres qu'on pourrait qualifier d'assez iconoclastes, en tout cas par rapport à la manière dont on les étudiait à l'époque. Ensuite, il y a la série des Hermès, d'autres personnages aussi, petite poussette, vous en parliez. Dans votre œuvre, on trouve aussi des monographies sur Jules Verne, le peintre Vittore Carpaccio, un livre ou deux livres, je crois, sur Hergé également. C'est vrai qu'il y a une grande de profusion quand même d'essais, de styles, voire de textes qui tirent vers le roman.
C'est une bonne question et assez profonde concernant notre philosophie. Quand je dis notre philosophie, je veux dire la philosophie de langue française. Et peut-être même les philosophies de langue latine, en prenant langue latine au pluriel. Pourquoi ? Parce que vous parliez tout à l'heure de Gilles Deleuze, je crois. Et Gilles Deleuze définit la philosophie comme la création de concepts. Mais ce n'est pas tout à fait mon avis. Parce que si on regarde l'histoire de notre philosophie en langue française, et même sans doute espagnole, et sans doute italienne, etc., on s'aperçoit, tenez, par exemple, le grand maître dans l'histoire de la philosophie, celui que je vénère le plus, c'est Montaigne. Montaigne est un grand philosophe, il n'y a aucun doute là-dessus, il a créé réellement la sensibilité moderne à la Renaissance. Très bien. Mais si vous lisez les essais, c'est une foule de personnages qui sont là, en train de vivre, en train de donner des exemples, en train de faire des actions, etc. C'est pas des romans, mais c'est des personnages vivants. Le meilleur texte que nous ayons sur les problèmes du hasard et de la fatalité, c'est Jacques le Fataliste de Diderot. C'est-à-dire, c'est un roman. Non. Jacques le Fataliste, et avec son maître, symbolise un le hasard, l'autre la nécessité. Voyez. Et quand on comprend très bien ce que veut dire Diderot, ben, il dit quelque chose qui est mille fois plus profond que... Voyez. Et si vous parlez de l'optimisme, vous allez avoir un roman de Voltaire, vous aurez Zadig, vous aurez... etc. Donc il y a une tradition chez nous assez profonde qui va... Tenez par exemple Auguste Comte. Il n'y a pas de philosophe plus emmerdant qu'Auguste Comte, plus profond du point de vue des sciences, un type extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il a fait à la fin de sa vie ? Devinez-le. Il a fait un calendrier, le calendrier positiviste. Et ce calendrier, il y a un tel, un tel, un tel, un tel. Il n'y a que des personnages. Vous voyez ? C'est-à-dire que nous sommes hantés par le vivant et le concret. C'est-à-dire, ce n'est pas vrai qu'on crée. La philosophie allemande crée des concepts. La philosophie américaine aujourd'hui, la philosophie analytique, crée en effet des écoles. Et non. Nous essayons de créer des hommes et des femmes. Voyez. Et du coup, c'est vrai que j'ai dit l'Hermaphrodite, c'est vrai que j'ai dit Atlas, c'est vrai que j'ai dit Hermès, c'est vrai que j'ai dit le Samaritain, c'est vrai que j'ai dit Petite Poussette, etc. Vous voyez. C'est-à-dire, il me semble que je suis plutôt dans la plus vieille tradition de ma langue, si vous voulez, et en même temps que c'est la meilleure ouverture pour comprendre le monde contemporain.
Et en dehors de cette tradition également, vous avez aussi lu, vous avez presque été chercher, on pourrait dire, certains ouvrages. J'en prends deux qui m'ont beaucoup intéressé, notamment certains ouvrages, certains auteurs. Les ouvrages de Jules Verne que vous avez abondamment lus. Vous n'êtes pas le seul, il y a beaucoup de scientifiques aussi qui ont lu Jules Verne et qui sont devenus scientifiques en ayant lu Jules Verne également. Et puis un autre que je ne connaissais pas mais que j'ai découvert à ce moment-là, Léon Brillouin, donc physicien franco-américain, qui est connu lui pour avoir publié La science et la théorie de l'information en 1959. Donc on a deux auteurs qui sont évidemment très différents. Vous avez écrit sur Jules Verne, pas sur Léon Brillouin, je crois, pas spécifiquement. Qu'est-ce que vous y avez vu dans ces deux auteurs? Des anticipateurs, on pourrait dire?
Oui, Léon Brillouin est un homme qui, je n'ai pas peut-être fait de livre sur lui, mais tous mes livres, pratiquement, se réfèrent à la théorie d'information. Ça y est, pas de doute. C'est-à-dire, c'est la théorie d'information aujourd'hui qui gouverne le monde. Et c'est lui qui l'a inventée. Alors, parlons de Brillouin, si vous voulez. Voilà, et parlons de Jules Verne, parlons en même temps, puisque vous avez cité les deux, essayons de raconter une histoire commune des deux. Voilà ce qui s'est passé. À la fin du 18e et au début du 19e, un certain Laplace publie une mécanique céleste. Et cette mécanique céleste, qui a tant servi aux marins, bien entendu, déduit la totalité des mouvements du système solaire à partir de la loi de Newton. C'est une déduction parfaite. C'est-à-dire tous les mouvements, y compris le mouvement des marées, viennent de la loi de Newton. Et est-ce que vous savez qu'au XVIIIe siècle, l'Académie des sciences en France ne croyait pas du tout à Newton, et pour de très bonnes raisons. C'est-à-dire l'attraction universelle, c'est-à-dire qu'il y ait une force qui se transmette à distance, c'était pour les académiciens de la pure magie. Et il faut être vraiment convaincu que ça marche pour savoir que ce n'est pas de la magie. Voyez, et donc il a converti, bon, très bien. Alors, à ce moment-là, n'oubliez pas que, à peu près à la même époque, 100 ans après, fin 19e, début 20e, vous voyez, Laplace, c'est 1790-1803, vous voyez, et 1890-1906, hein, Poincaré écrit la même chose sur le système solaire. Et tout d'un coup, il dit, ben, c'est très simple, Laplace dit que le système solaire est stable. D'ailleurs, ça roule, ça roule, ça roulera toujours comme ça. Et Poincaré démontre qu'il n'est pas stable. Et c'est le chaos, c'est la catastrophe. Et alors, tout d'un coup, il arrive un événement extraordinaire. C'est-à-dire, du temps de Jules Verne, grâce probablement aussi aux instituteurs de notre pays, les gens de la société ordinaire avaient dans la tête le même monde que les grands savants. La Terre était ronde, l'attraction universelle était la grande loi, ça tournait autour du Soleil, voilà, hein, en gros. Oui, mais les savants en savaient beaucoup plus. Mais en gros, c'est le même monde. Et comme c'est le même monde, Jules Verne va écrire des livres sur toutes les sciences, comme c'est le même monde, où à chaque roman, il va faire un voyage où il va expliquer une science donnée. Et cette science donnée, ben, vous la comprenez à votre niveau, comme le plus grand savant, c'est le même monde. Donc, entre ces deux mondes, il peut y avoir des courroies de transmission. Vous voyez, ça marche très bien. Et tout d'un coup, paf, il arrive une chose extraordinaire. C'est, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu cette photo tout à fait célèbre des congrès Solvay à Bruxelles, où il y a Einstein, où il y a Schrödinger, où il y a Brillouin, où il y a Poincaré, où il y a Madame Curie, etc. C'est les grands moments du XXe siècle. Et au moment du XXe siècle, il y a un problème énorme qui se passe, c'est que, du point de vue du monde grand, c'est la relativité, et du point de vue du monde petit, c'est la physique quantique. Et tout d'un coup, plus personne ne comprend rien. Et il y a de quoi. C'est-à-dire, dans le grand, il faut comprendre ce que c'est que l'espace courbé, que le rôle fondamental de la vitesse de la lumière. Et de l'autre côté, il faut apprendre qu'il y a des quantas et avec des équations d'indétermination impossibles, c'est-à-dire en dehors de l'intuition commune. Vous voyez ? Et donc, clac, il y a une sorte de coupure entre le monde ordinaire. Alors, il ne peut plus y avoir un Jules Verne. Il n'y a plus de courroie de transmission. voyez. Et c'est normal. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile. Écoutez, dans ma promotion, il y avait Claude Wendanouji, qui est un monstre d'intelligence et de bonté. C'est un type extraordinaire qui a eu le prix Nobel de physique. Et on discute souvent des problèmes de quanta, etc. Et un jour, il m'a dit, tu sais, Michel, il y a des moments où j'y crois pas. Mais c'est pas qu'il n'y croit pas, c'est pas ça qu'il voulait dire. Il disait, mon intuition n'est parfois assez fine pour arriver à comprendre vraiment ce qui se passe. Vous voyez ? Et si vous suivez un cours de Claude Wendanouji, vous pleurez devant des prodiges de clarté, d'intelligence, dans les choses difficiles, vous voyez ? Eh bien, même lui a des problèmes d'intuition. Alors, vous voyez donc que là, Jules Verne est disqualifié.
Ce que vous voulez dire, si j'ai bien compris, c'est que Jules Verne, c'était ce modèle de transmission, justement, avec ces personnages qui, en voyageant, nous emmènent dans tel ou tel domaine de voilà. La science, et qu'avec Léon Brihouin, ceci n'est plus possible. Quand vous dites « plus personne ne comprend rien », est-ce que c'est un point de départ à partir duquel vous avez commencé à écrire, justement ?
Voilà. Et c'est pour ça que j'ai écrit toute mon œuvre, c'est devant cette disqualification de l'intuition. C'est-à-dire qu'il faut inventer une nouvelle manière de comprendre. Il faut inventer une nouvelle manière de la connaissance, il faut inventer une nouvelle manière de voir l'histoire, etc. Tout est nouveau, tout est à reconstruire. Et par conséquent, j'étais un enthousiaste de la philosophie.
D'où peut-être cette profusion extraordinaire. Je vais poser une question.
Oui, tout était à refaire. Oui.
Un peu trivial peut-être, mais c'est vrai que voici 74 livres, donc en 42 ans. Certains de ces livres sont plus ou moins longs, jamais en dessous d'une centaine de pages, je crois. Comment est-ce qu'on fait tout simplement pour écrire autant ?
Il faut se lever tôt. Oui, oui, il faut se lever tôt. Il faut se lever de bonne heure, oui. 4 heures, je conseille 4 heures. 4 heures. Enfin, ah si, on peut faire la grasse matinée le dimanche à 4h15 quand même. Non, je m'amuse, mais c'est vrai que...
On n'écrit pas en finissant une journée.
Non. La journée a été trop longue, trop difficile. Là, il faut dormir, là, c'est sûr. Non, mais vous savez, la philosophie, c'est très difficile. C'est-à-dire, ça demande un travail solitaire, un travail énorme, dans des domaines difficiles. Vous savez, nous sommes des généralistes. Moi, je rêve d'être un spécialiste. Ça serait drôlement bien d'être simplement sur un problème de mathématiques ou un problème de biochimie. Vous voyez, nous, on est obligés d'avoir une vision comme ça, latérale, globale, profonde, etc. Ça demande des travaux d'Hercule. Bon, alors qu'on réussisse pas, c'est bien normal. Si vous me dites que j'ai raté, je l'accepte. J'ai raté, oui. Et c'est une entreprise toujours ratée tellement qu'elle est difficile, voilà.
Et ce serait raté en tant que quoi ou réussi en tant que quoi ? Je vais m'expliquer. Si on parle du livre et de l'objet et de la manière dont on les fabrique, j'avais vu que vous disiez « je ne me suis jamais considéré donc comme un intellectuel, comme on dit dans les journaux. Un écrivain est un manuel, un homme qui aime écrire avec la main, fabriquer un objet qui s'appelle le livre, et cette fabrication d'un objet est une grande jouissance poétique, vous le dites, de faire avec les mains, un peu comme un artisan fait un objet, une table, un soulier. J'ai vu aussi que vous disiez avoir voulu être musicien à un moment, justement pour ce rapport presque immédiatement expressif entre le geste et l'œuvre. Est-ce que c'est ce que vous avez cherché en fabriquant vos livres ?
La citation que vous venez de faire de cet auteur qui est à côté de vous parle beaucoup de la main, n'est-ce pas ? C'est que la moitié de la vérité. Je crois qu'on n'écrit pas seulement avec la main. Vous marchez. Pam 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 pam. Le piétinement sourd des légions en marche. Quadrupé dante putrem solitu patitum gula campum Virgile. Pam 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 pam. Et tout le corps devient un rythme. Le corps devient un rythme et tout le corps. Et à ce moment-là, le langage est là, la musique est là, le rythme est là, le langage est là, pam 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 pam, la pensée est là, on écrit avec les pieds. C'est-à-dire, vous voyez, c'est pas les mains seulement. C'est-à-dire, c'est vrai, je crois, que le corps entier est la source. On n'est pas des intellectuels, mais pas seulement la main. Vous voyez, c'est-à-dire que la marche ou le pied, et me paraît, il n'y a pas un seul poème qui ne se compte pas en pied. n'est-ce pas ? La rime, l'alexandrin a 12 pieds, n'est-ce pas ? Et c'est un animal curieux qui a 12 pattes, n'est-ce pas ? Voilà. Et d'ailleurs, c'est normal qu'il ait 12 pieds pour une raison très simple, c'est que quand vous regardez l'horloge, le temps se compte à 12 et non pas à 10. Hein ? Et donc, c'est naturel qu'il y ait l'alexandrin. L'alexandrin n'est pas du tout de type artificiel. C'est regardez, il y a 12 pour midi et 12 pour minuit. C'est-à-dire, c'est un des grands échecs du système métrique. Le système métrique est à 10, mais le temps ne résiste à 10. Il est à 12. Oui, ouais. C'est une histoire intéressante. Il y a quelques années, l'Académie des sciences a demandé à l'Académie française, et là, c'est tombé sur votre serviteur, une réforme du comptage. Et c'était passionnant. L'Académie des sciences a dit, écoutez, nous sommes quand même très embêtés de dire 11, 12, 13, 14, etc., alors qu'on dit 21, 22, ou si on dit 31, 51, 61, 101, pourquoi on ne dit pas 10-1, 10-2, 10-3, etc. La charge de choses est tombée sur mes épaules, puisque je représente à l'Académie française le pauvre scientifique de service, vous voyez. J'ai bien étudié la question et j'ai dit à mes collègues de l'Académie des sciences, vous savez l'anglais peut-être. Alors c'est 11, 12, 13. Et il n'y a pas la même chose en 20, en 30, etc. C'est pareil en espagnol, c'est pareil. Eh bien voilà, nos ancêtres celtes, nos ancêtres palatins et celtes comptaient à base 12. Et par conséquent, c'est une trace historique. Et permettez que nous la gardions. Elle est vraiment très précieuse. Parce que vous, les scientifiques, il vous arrive aussi de compter en base de 12, n'est-ce pas ? Et forcément, là, je les ai coincés. Et j'étais très content. Et on dit toujours 11 et 12, grâce à moi.
Je crois quand même que les Italiens comptent en 11, 12, 10. Les Italiens comptent comme ça, en 11, 12, 10, 14, 10.
Non, les Belges, les Suisses, etc.
Et vous avez raison.
Mais vous savez que l'école des aveugles s'appelait les 15-20. Il ne s'appelait pas les 300, mais comme les 80, les 15-20. Oui, oui. Alors, bien sûr.
Je voudrais qu'on revienne à cette histoire de pied, de main. Est-ce que, en un sens, si je vous suis bien, vous avez voulu aussi, et vous allez me comprendre, que vos lecteurs lisent avec les pieds ? Un bon aperçu de ma question, pour la préciser, c'est la composition du livre Le Parasite, par exemple, que vous aviez écrit en 1981.
Néolithique tardif.
Voilà. Si on s'attache à la table des matières de ce livre, on voit qu'elle est complètement déroutante, littéralement déroutante. Alors, repas ininterrompu, nouveau repas interrompu, vache grasse, vache maigre, banquet nocturne, avec des sous-chapitres, des intertitres, des numéros de pages dont on ne sait pas à quoi ils correspondent. C'est pour ça que je me demandais si vous avez voulu que vos lecteurs marchent avec les pieds, qu'ils se promènent aussi.
Là, c'est pas les pieds. Dans le cas du parasite, c'est manger. On ne se rend pas compte ce que ça veut dire manger. C'est-à-dire le parasite est dans son hôte et il y fait à la fois son gîte et son couvert. C'est-à-dire il survit grâce à son hôte, donc il mange. Et que je sache, tartuffe, c'est une traduction italienne de la truffe, et la truffe est une plante, enfin on ne dit pas parasite pour les plantes, mais une plante parasite, vous voyez, épiphyte, vous voyez. Par conséquent, elle mange sur l'hôte. Et donc il faut réfléchir à manger. Et c'est très difficile parce que la table des matières pourrait passer pour un menu. Il n'y a pas beaucoup de menus homogènes. Ils sont tous disparates. Ce que vous mangez en hors d'œuvre, c'est pas ce que vous mangez pour le rôti ou pour le fromage, vous voyez. Bon. Mais manger. Puisque je suis à Saint-Malo, je voudrais vous dire qu'une des formes qui m'a le plus stupéfait dans ma vie, c'est la forme d'un poisson. Regardez bien un poisson. Avec son arête absolument droite et raide, n'est-ce pas ? Avec sa chair, etc., sa forme hydrodynamique et oblongue, n'est-ce pas ? Avec une queue puissante et des choses pour gouverner. Mais c'est pas important, ça c'est pas important du tout. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a devant. Devant, c'est la bouche. C'est-à-dire, c'est un animal fait pour quoi ? Pour manger. Et regardez maintenant tous les animaux, la bouche est devant. N'est-ce pas ? La bouche est presque toujours devant. Même le quadrupède, n'est-ce pas, le tigre ou le chat, et la gueule devant. D'accord ? Bon. Que se passe-t-il pour l'homme ? Mais nous étions en quatre pattes. On avait donc la gueule devant, n'est-ce pas? Puis on se met, tout d'un coup, à se mettre debout. Mais pourquoi? Parce que la bouche n'est plus faite seulement pour manger. Elle est faite aussi pour parler. Et marginalement pour baiser sa petite amie, n'est-ce pas? Donc elle a une fonction tout à fait différente, et donc il y a un retrait de la bouche, n'est-ce pas? Et la bouche devient un organe, c'est plutôt les mains qui seraient en avant si on veut, etc. Le retrait de la bouche est probablement le propre de l'homme. Or, si on définit les animaux se courent par rapport aux végétaux qui ne bougent pas. Et pourquoi courent-ils? Pour attraper leur proie, pour échapper aux prédateurs, et aussi pour mettre à distance leurs excréments. Je crois que c'est très important. Enfin, ils courent, de toute façon. Et quand ils courent, ils ont la bouche en avant. Donc, manger est un phénomène central dans l'anatomie, la physiologie, peut-être générale chez les animaux. Vous voyez ? Et c'est donc un acte biologique. D'autre part, c'est un acte politique et social. C'est-à-dire, le lien élémentaire que nous avons avec autrui, si vous tombez ami avec quelqu'un, on bouffe ensemble. On l'invite à dîner, on l'invite à déjeuner. Et le lien social se fait dans le banquet. Là, nous y sommes. Repas interrompu, repas, etc. Le repas, c'est la création du lien social. Et par conséquent, la grande figure de notre lien social, c'est la scène, n'est-ce pas ? La scène où on se partage le pain, où on se partage le vin, etc. Et tout d'un coup, pam, c'est un acte sacré. Donc c'est un acte biologique, un acte politique, un acte sacré. Et par conséquent, dans le problème de la manducation, de manger, il n'y a peut-être pas de choses plus profondes, si vous voulez, à regarder pour un philosophe. Vous voyez ? Tenez, c'est très simple. Ouvrez la Bible, la première scène de la Bible. Je vous la récite presque de mémoire. Alors, ils rentrèrent dans le paradis où tout était bon à manger. Alors, tous les arbres portaient des fruits bons à manger. Alors Dieu leur dit qu'il ne fallait pas manger tel truc. Alors Ève s'approcha du truc et le mangea. Et ensuite, elle porta la pomme à son mari et il le mangea. Le verbe manger est là, pam, 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 tout le temps. C'est-à-dire, il est comme s'il était fondamental à la création de l'homme. Vous voyez ? Et c'est ça que je veux dire. Et donc, le parasite est un problème très intéressant, qui est à la fois biologique, politique, social et à la limite religieux.
Et que le retour au menu dans la présentation, justement, était censé rendre adéquat, en fait.
Voilà, exactement. Alors, tout le monde est perdu, mais on n'est pas perdu devant un menu.
C'est vrai, devant les prix, peut-être. Vous écoutez la masterclass de France Culture, donc toujours en public, du Festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo, avec Michel Serres, évidemment. Nous parlions du Parasite, un de vos nombreux personnages romanesques, conceptuels. On va voir, en tout cas, vous êtes connu pour cela. Ce sont souvent les noms qui restent plus que les titres, parfois, de vos ouvrages, même si parfois ce sont aussi des titres. Je parlais d'Hermès, le Parasite, on vient d'en parler. Il y a aussi l'Hermaphrodite, Arlequin, les Anges, la Petite Poussette, le Gaucher Boiteux plus récemment. Ce qui me frappe aussi, c'est qu'on voit que vous n'hésitez pas à aller chercher, et c'est bien que vous ayez parlé de la Bible, un peu dans tous les univers, l'Antiquité grecque, la biologie aussi, le catholicisme médiéval, ou le texte de la Bible antique, l'imaginaire contemporain aussi. Et ce à quoi ça m'a fait penser, c'est à ce que vous disiez, vous Michel Serres, de Michelet sur la sorcière. Vous disiez, il en a fait l'héritage médiéval de Médée, cette sorcière. Vous, qu'est-ce que vous faites quand vous poser ces noms, que vous les écrivez, est-ce que vous convoquez un héritage ou est-ce que c'est tout le contraire d'une convocation ?
C'est peut-être les deux à la fois. C'est-à-dire, je vous ai déjà répondu en partie sur les héritages de la philosophie française. Okay. D'ailleurs, dans l'enseignement, il est quand même très remarquable que ce soit les littéraires qui enseignent les philosophes, ni Montaigne ou Diderot, n'est-ce pas ? Et que les philosophes sont complètement embêtés de n'avoir pas de texte en français, alors ils prennent des ouvrages allemands, qui sont conceptuels. Voyez. Et c'est pour ça que mes personnages ne sont pas vraiment conceptuels, n'est-ce pas ? Ils sont vraiment charnels, concrets, vivants, etc. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure que nous étions... Non, je ne l'ai pas dit. Donc je le dis ou je le redis, mais comme je suis vieux, je suis quelquefois gâteux, je crois le redire. Quand on est philosophe, on est généraliste. Oui, je l'ai dit, on est généraliste. Et donc, comme on est généraliste, l'horizon est vraiment ouvert. Et du coup, on prend ses valeurs là où on les trouve. Vous voyez ? Alors vous dites antiquité grecque, oui, bien sûr, antiquité latine, pourquoi pas, le Moyen-Âge, bien sûr, l'ère moderne, etc. Et puis l'ère absolument contemporaine, petite poussette, il faut bien créer un nouveau personnage qui n'existe encore pas. Vous voyez ?
Personnage accroché au portable.
Vous voyez, c'est voilà. Ça, exactement. Et par conséquent, cette galerie de personnages que je propose, n'est-ce pas, est simplement la traduction du fait que la nature même de la philosophie, c'est la non-spécialité. C'est-à-dire une sorte d'ouverture ronde sur l'horizon maritime.
Vous aviez même dit au départ, je crois, que écrire des personnages, c'était pour faire rire votre petit ami au début.
Mais c'est quand même essentiel. On ne séduit une femme qu'en la faisant rire, voyons. Les hommes devraient le savoir.
C'est bien connu. Autre chose sur ces personnages, Michel Serre, il y a des personnages dont vous avez écrit le récit, il y a aussi certains personnages qui n'ont pas été écrits, qui ont l'air un peu idéaux dans votre écriture à venir. Pantop, par exemple, ce personnage issu de Passepartout, justement dans Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours. La deuxième chose que je remarque, c'est que ces personnages idéaux se mélangent avec les personnages écrits presque pour former, là non pas un système, mais un peu une famille, presque Hermès, successeur de Prométhée, prédécesseur aussi en un sens des anges qui sont connectés en réseau, et puis Pantop, lui, je le disais, directement issu de Passepartout, et Petite Poucette aussi, vous l'avez dit à un moment, fille d'Hermès et Madame Pantop. On a effectivement cette volonté de tisser des liens peut-être pas familiaux.
Ils ont peut-être en commun aussi une sorte d'ouverture dans la généralité des possibilités. Je vais vous raconter comment j'ai écrit l'Hermaphrodite, par exemple. Roland Barthes avait écrit une petite nouvelle qui a eu beaucoup de succès sur la Sarrasine de Balzac. Et la Sarrasine de Balzac raconte l'histoire d'un castrat. C'est-à-dire de ces personnages très célèbres dans la Renaissance qu'on châtrait pour garder leur voix d'adolescent pendant toute leur vie de haute contre. Très bien. Et Balzac raconte l'histoire d'un castrat qui est vraiment devenu célèbre et assez riche. Et Roland Barthes parle sans arrêt du fait qu'il est castrat, qu'il a été châtré, qu'il est, etc. Et je ne sais pas, il y avait quelque chose qui me troublait dans cette affaire. Et j'ai pris rendez-vous chez trois vétérinaires. « Allô, monsieur, est-ce que je vous reprends ?»« Oui, très bien. » J'arrive chez le vétérinaire, il me dit « Vous avez votre animal ?»« Non, je dis je... » Je suis simplement philosophe. Ah ben, j'ai rien à foutre là. Mais me dit le. Si. Voilà. Vous châtrez des mâles souvent, des chats, des chiens, etc. Je voudrais savoir quelle est la conduite sexuelle des mâles lorsqu'ils sont châtrés. Et la réponse est éblouissante. Un tiers zéro, plus de sexualité. Un tiers. Un peu, comme ça, et un tiers terriblement excité, avec une conduite sexuelle extraordinaire. Alors, je veux aller voir un troisième veto, ils me disent tous la même chose. Et par conséquent, je me dis, lorsqu'on châtre un homme, il doit y avoir ce même cas. Et par conséquent, ça donne une entrée extraordinaire sur la castration, que n'avaient pas du tout vu ni les psychanalystes, ni etc. C'est que pourquoi il était riche, hein? Bon, eh bien parce que si vous couchez avec lui, madame, vous n'aurez pas d'enfant, n'est-ce pas? C'est une excellente capote anglaise, vous n'avez pas besoin de rien avec lui, parce qu'il est châtré, justement. Et par conséquent, c'était les amants des têtes couronnées les plus riches. Et donc, ils avaient une fortune extraordinaire. Et c'est à cause de la castration, justement, qu'ils étaient oui. Et donc, c'était tout à fait l'inverse du résultat de Roland Barthes. Voilà.
Là-dessus arrive l'hermaphrodite et arrive peut-être aussi, ça m'y fait penser, Tintin, je voulais en parler aussi, ce personnage dont on a tellement dit qu'il était asexué, est-ce que ça pourrait pas être aussi une sorte de modèle pour vous? Vous avez dit, il aurait presque pu être considéré comme un de mes personnages, tant il m'a marqué et donne à penser, et c'est là que j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Qu'est-ce que Tintin, selon moi? Une boule ronde, complètement blanche, un trou à travers lequel n'importe qui peut mettre la tête, comme dans les dessins de foire, et le génie de cette bande dessinée, c'est précisément ce trou-là, ce blanc qui est la somme de toutes les couleurs. Tintin, c'est personne et c'est tout le monde. Le blanc n'est rien, mais il additionne toutes les couleurs. Je vais poser la question simplement, mais Tintin, qui c'est pour vous ? C'est ce modèle de tous les personnages ?
Précisément, puisque je dis tout de suite que la philosophie le philosophe est un généraliste, il est en train tout le temps de chercher l'horizon le plus large, n'est-ce pas ? Quand on regarde l'horizon le plus large, ce qui est intéressant, c'est peu à peu, de passer du réel au possible. N'est-ce pas ? De passer du réel au possible. Et la couleur blanche, enfin la couleur, l'absence de couleur blanche, me paraît très très intéressante. Pourquoi ? Parce que dans le blanc, vous avez zéro couleur et toutes les couleurs. Vous avez zéro couleur et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont virtuellement intégrées dans le blanc. Et si vous faire une diffusion de la lumière blanche, vous aurez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et par conséquent, il y a dans cette image, si vous voulez, une très bonne image de l'abstrait. Voyons, petit cours de mathématiques, s'il vous plaît. Ah oui, tiens, c'était la guerre. Oui, je racontais une histoire. J'avais 7 ans, 8 ans, je crois, lorsque, dans mon collège, tous les professeurs ont été mobilisés en 39, à la guerre de 39. Et donc, il n'y avait plus de profs. Et par conséquent, on a redistribué les élèves n'importe où, n'importe comment. Et le pauvre Michel, qui était en CE, je ne sais pas quoi, et s'est vu bombarder en cinquième. Et le prof de maths est arrivé et il a écrit « x moins 2 égale 0 ». Il dit « Tiens, il compte avec des lettres, il renverse l'alphabet complètement, x, y, z ». Alors, je lève le doigt, je dis, vous comptez avec des lettres, monsieur ? Il me dit, mais bien sûr, c'est l'inconnu. Ah oui, ça, je sais. j'ai dit, mais vous comptez avec l'inconnu, qu'est-ce que c'est l'inconnu ? Ben, il peut avoir toutes les valeurs. Ah, mais quelle valeur il a ? Il n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur, il a toutes les valeurs. Et j'ai pensé tout à l'heure à ma tirelire. Dans ma tirelire, j'y mettais des sous. Au bout d'un certain temps, je ne savais plus du tout ce qu'il y avait dedans. Et il fallait pas, je ne pouvais pas casser la tirelire, puisque c'était mes économies. Et je me suis dit, le prof, au lieu de compter avec les sous, compte avec ma tirelire. Et tout d'un coup, il m'est tombé sur la tête une sorte de grâce divine inouïe. J'ai compris soudain ce qu'était que l'abstrait. Que l'abstrait, c'était précisément zéro valeur, toutes les valeurs. Zéro valeur, toutes les valeurs. Et du coup, dès que j'ai compris X, eh bien, mon cher, je suis devenu philosophe. Et oui, parce que quand même, là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau et de bouleversant pour un gosse de se dire que je me suis emmerdé pendant toutes ces années à compter le bénéfice, le prix d'achat, le prix de vente, les robinets qui coulent, etc., alors que X est si simple. N'est-ce pas ? Et c'est-à-dire que la découverte inouïe des mathématiques, c'est-à-dire de l'abstrait, qui explique le concret de façon complètement généreuse, ouverte, comme ça. Vous voyez ? Et dire qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut se méfier de l'abstrait. Mais vive l'abstrait ! C'est ce qu'il y a de plus simple, de plus complet, de plus général, et ce grâce à quoi on peut comprendre le monde. Et bien sûr, et du coup, c'est une découverte extraordinaire. Et par conséquent, moi, je souhaite que beaucoup d'enfants aient la même révélation que j'ai eue grâce à la guerre. C'est-à-dire, on m'avait fait sauter 4 classes. Et tout d'un coup, je suis tombé sur X, vous voyez. Et ça a été une révélation. J'espère que ça deviendra votre révélation à vous aussi. Hein. Que l'abstrait est la chose la plus simple, la plus claire, la plus explicatrice du monde, etc. Et c'est ça la philosophie. C'est ça la philosophie. Avec de l'abstrait, je vais vous expliquer tout. Et c'est pour ça que je suis généraliste.
Et alors précisément, Michel Serres, cette expression « zéro valeur, toutes les valeurs », on comprend bien maintenant en quoi elle renvoie à Tintin, effectivement, zéro couleur, oui, toutes les couleurs, couleur. Aussi comme modèle presque générique. Et c'est là ma question, peut-être, de vos personnages. Si on parle d'une méthode Michel Serres, je sais que vous n'aimez pas ce mot de méthode, donc j'ai un peu cherché quand même. J'ai trouvé un ouvrage universitaire qui en parle bien, cependant, de Marc Poré, de l'UFR du monde anglophone de Paris 2003. Il écrivait sur votre livre sur Zola, donc Feu et signaux de brume. Donc là, je vous cite, Carnot parle de sa machine, il parle du monde, météores, mers et soleils, il parle du groupe humain, de la circulation des signes, tout bonnement comme un physicien d'Ioni, comme un naturaliste, comme Zola, et c'est là, il parle à plusieurs voix, comme je dois et espère le faire. Parler à plusieurs voix, qu'est-ce que ça veut dire quand vous écrivez ?
Eh bien, c'est ça que je veux dire précisément, parler à plusieurs voix. D'ailleurs, là aussi, vous me direz que j'ai des... C'est la Pentecôte. C'est pas la Pentecôte aujourd'hui ?
On y arrive.
Oui, c'est demain. Demain et lundi de Pentecôte, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive le jour de Pentecôte ? Il arrive que quelqu'un parle et il est compris par tout le monde, même s'ils ont des langues différentes. Donc il parle à plusieurs langues, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est ça la philo. C'est exactement ça la philo. C'est-à-dire, vous avez un concept un peu global, comme ça, et puis tout d'un coup, vous apercevez qu'il explique quelque chose des sciences humaines, quelque chose des sciences dures, quelque chose de la politique, quelque chose de la religion, etc. Vous voyez ? Et donc, c'est un point de vue suffisamment large et global pour qu'est-ce qu'un philosophe ? Il embrasse la totalité. Évidemment, il rate, évidemment. Il veut embrasser la totalité. Plus c'est abstrait, plus on explique la totalité des choses.
Ce qui rejoint votre projet, vous allez me dire, ou pas, mais on peut poser cette question, effectivement, pour un philosophe, pour un artiste aussi. Est-ce qu'il a un projet général de bâtir une œuvre ? Vous êtes souvent qualifié comme accoucheur du monde. Donc, on pense effectivement à la maïeutique, mais là, c'est pas l'accoucheur individuel, c'est l'accoucheur du monde. C'est ce que vous disiez en référence au gaucher boiteux. Tout mon travail depuis 50 ans, c'est d'aider à la naissance du monde moderne. En quoi est-ce que ces livres, justement, selon vous, contribuent à cette naissance ? Ils entérinent quelque chose ? Ils anticipent ? Ils annoncent ?
On dit que la philosophie, c'est la sagesse. Mais moi, je prends sagesse au sens de sage-femme. C'est-à-dire qu'un philosophe qui n'aurait pas prévu ou anticipé, en quelque sorte, le monde qui va venir... n'est pas un philosophe. Par exemple, Aristote anticipe le Moyen-Âge, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ainsi de suite. Montaigne, je l'ai dit tout à l'heure, anticipe, Descartes anticipe la science moderne. Il y a de l'anticipation. Un philosophe est anticipateur. Et je me souviens, quand j'ai écrit mes livres sur Hermès, je me suis fait engueuler de par tout le monde. Parce qu'il était bien évident que le dieu, c'était Prométhée. C'est-à-dire le dieu, c'était le dieu de la fabrication, de l'usine, de l'industrie, etc. Mais j'ai dit non, demain, ça sera la communication. Vous voyez ? Et donc, il y avait une anticipation, là. Vous savez, quand j'ai écrit le contrat naturel, tout le monde me tombait sur la gueule, tous les philosophes. C'est-à-dire, il n'y a pas de contrat naturel. Mais aujourd'hui, le droit s'oriente selon le contrat naturel. Donc là, je me vante, excusez-moi. Mais c'est vrai que j'ai anticipé, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a plusieurs livres qui annoncent quelque chose qui est arrivé quelque temps après. Il n'y a qu'un livre qui est postérieur, qui est en retard, c'est Petite Poussette. J'aurais dû l'écrire au moins 15 ans avant. J'aurais pu l'écrire, mais j'y ai pas pensé.
Et en ce sens, en tout cas, c'est pas simplement flatteur de parler d'une œuvre prométhéenne, effectivement, dans son
et
sens
non,
fort.
Il faut pas. Et non.
Et on aura l'occasion...
Hermétique, alors.
On aura l'occasion de vous lire encore. En tout cas, merci beaucoup, Michel Serres.
C'était la masterclass de Michel Serres avec Xavier Martinet. Attaché de production Mathieu Maroudin. Coordination Arnaud Laporte. Réalisation Vanessa Nadjar.